Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien et vous?
Ça va bien, merci.
Alors aujourd'hui, vous allez nous amener très loin dans un des plus grands musées du monde. Puis j'ai compris que vous allez nous expliquer un petit peu comment on en est arrivé finalement à créer un musée à partir de ce lieu qui était une résidence des tsars de Russie.
Oui, c'est un des plus importants ensembles muséaux au monde, tant par sa superficie que par le nombre d'œuvres qui y sont exposées, que par le nombre de visiteurs qui l'accueillent à chaque année. Et on doit l'existence du musée de l'Ermitage au régime des tsars en Russie et à une tsarine tout particulièrement, Catherine II, qui a fait construire la majorité des bâtiments du complexe au 18e siècle et a assemblé une bonne partie de la collection elle-même.
Oui, c'est ça, on dit qu'elle avait une très, très grande collection d'œuvres.
Oui, c'est un genre de boulimique de l'achat d'œuvres d'art. Je vais y revenir dans un instant. La Russie, c'est une monarchie absolue dès le 16e siècle. Et au départ, on utilise le terme « tsar de toutes les Russies » pour désigner le monarque. C'est un terme qui descend de César, même si les linguistes ne s'entendent pas sur la manière dont le processus s'est fait. Au 18e siècle, Pierre le Grand fait changer son titre pour « empereur de toutes les Russies » et non « tsar », mais on continue d'utiliser le terme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et aujourd'hui, on entend encore ça régulièrement, la Russie tsariste jusqu'à la toute fin du régime, même si ce n'est pas techniquement exact. Mais qu'on s'appelle un tsar ou un empereur, l'avantage d'être un monarque absolu, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et si la capitale de notre empire n'est pas à notre goût, ben on peut s'en faire construire une nouvelle. Et c'est ce qu'a fait notre Pierre le Grand. Il n'aimait pas vraiment Moscou, capitale historique du pays. Et lui, qui a lancé un grand mouvement de modernisation et d'européanisation de son pays, voulait que son gouvernement et sa cour soient installés dans un lieu beaucoup plus impressionnant que Moscou. Il lance donc la construction d'une nouvelle capitale dans une zone marécageuse du delta du fleuve Neva, sur la mer Baltique, dans le nord du pays, qui deviendra Saint-Pétersbourg. Et qui dit capitale d'empire, dit palais. Ça vous prend au moins un palais. Il fait construire une première, puis une deuxième version de ce qu'on a appelé le palais d'hiver. Mais ses successeurs n'étaient pas très impressionnés par le bâtiment. L'impératrice Élisabeth va faire construire un nouveau palais de style baroque qui est absolument magnifique. La construction dure 8 ans, coûte un prix inimaginable et le palais de 460 pièces sera la résidence impériale jusqu'à la chute du régime tsariste. Il constitue le plus vieux bâtiment du complexe de l'Ermitage. Élisabeth avait personnellement choisi une princesse prussienne pour épouser son neveu, qui allait lui succéder sur le trône, mais ses talents d'entremetteuse laissaient un peu à désirer. La princesse qu'elle a choisie a organisé un coup d'État contre son mari et a pris sa place sur le trône en tant que Catherine II de Russie, dite la Grande. Et la nouvelle impératrice, on en parlait en introduction, était, je pense qu'on peut le dire, une acheteuse compulsive lorsqu'il était question d'œuvres d'art. Une de ses premières acquisitions découlait directement de la guerre de 7 ans, cette guerre qui a scellé le sort de la Nouvelle-France, à laquelle a également participé la Russie et le royaume de Prusse, quoiqu'ils n'étaient pas impliqués dans les combats en Amérique du Nord. Un marchand d'art de Berlin avait assemblé une collection d'au moins 225 tableaux, surtout des grands maîtres flamands, et c'était destiné au roi Frédéric II de Prusse. Mais sa participation à la guerre avait laissé les coffres de l'État vides et il a dû renoncer à son achat. C'est donc Catherine II qui a mis la main sur les œuvres qui sont arrivées à Saint-Pétersbourg en 1764, ce qui est considéré comme la date officielle de fondation du musée de l'Ermitage. Et c'était doublement intéressant parce que non seulement la collection était d'une grande valeur, mais l'impératrice, qui voulait montrer le raffinement de sa cour et de son empire, prenait les tableaux de sous le nez d'un autre monarque d'Europe, donc essentiellement d'un rival. Elle va se porter acquéreuse d'un grand nombre d'autres œuvres qui occupent rapidement une bonne partie de ses quartiers personnels dans le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Elle se serait procurée près de 4000 peintures au cours de sa vie, mais aussi des dessins, des plans architecturaux. Elle était passionnée d'architecture. Il y a toutes sortes de pierres précieuses, d'objets de toutes sortes. Et elle, qui était une grande lectrice, s'est achetée environ 38 000 livres. À partir de 1764, la souveraine se fait construire un nouveau pavillon adjacent à son palais où elle pouvait se retirer seule ou avec quelques proches, pavillon qu'on va appeler l'Ermitage. C'est là qu'on voit le nom apparaître comme la résidence d'un ermite. Et très vite, les murs de ce qu'on appelle aujourd'hui le petit ermitage sont couverts de toile. Mais c'était encore la collection personnelle de Catherine II à ce moment-là.
Oui, justement, j'ai une question, Marcel. C'est sa collection personnelle. On comprend que c'était un privé, mais est-ce qu'elle ouvrait quand même les portes de son immense demeure? Est-ce qu'elle partageait ses œuvres avec les autres? Est-ce qu'on pouvait les voir?
Pratiquement pas,
même de la noblesse ou quoi que ce soit, là.
Ben, ça pouvait arriver, mais c'était vraiment... Bon, il y avait son cercle très restreint qui y avait accès. Des visiteurs importants, des visiteurs étrangers, par exemple, des ambassadeurs, des choses comme ça. Il y avait les étudiants des grandes écoles d'art du pays qui pouvaient être autorisés à voir les trésors qui s'y trouvaient, mais c'était vraiment sa collection à elle, dans sa résidence à elle. C'est devenu un musée au siècle suivant, en fait. Et Catherine II, d'ailleurs, qui correspondait avec plusieurs des grands esprits de l'Europe de son temps, certains d'entre eux l'aidaient à acheter de nouvelles collections. Et Denis Diderot, co-auteur de l'Encyclopédie, qui était un Français, qui était un des agents de la souveraine, disait qu'il commençait à être détesté à Paris en raison du nombre d'œuvres d'art qu'il faisait sortir de France à destination de Saint-Pétersbourg. Il y a une situation semblable qui s'est produite en Angleterre. On a voulu, à un moment donné, nationaliser les œuvres d'un grand collectionneur pour éviter qu'elles ne soient vendues à Catherine de Russie. Sans succès. Rapidement, donc, on va amorcer la construction du grand ermitage parce que le petit ne suffisait plus à la demande. Et avant son décès, Catherine II a aussi fait construire un théâtre qui fait aujourd'hui partie du complexe où on a joué des opéras, des ballets et un certain nombre de pièces qui étaient écrites par l'impératrice elle-même, pièces qui étaient, on présume, encensées par la critique. Des successeurs de Catherine II qui décèdent en 1796 vont continuer à acheter des œuvres et des objets historiques de toutes sortes, quoique pas nécessairement avec le même zèle. On ajoute un bâtiment qu'on appelle le Nouvel Ermitage en 1852, qui lui avait été conçu spécialement pour servir de musée. Là, il y a une partie des collections qui sont publiques auxquelles tout le monde peut accéder. En 1917, on a la Révolution russe et le renversement du régime tsariste. On n'a donc plus besoin d'une résidence impériale. Le complexe de l'Ermitage en entier devient un musée à ce moment-là. On en profite aussi pour vider de leurs objets d'art plusieurs palais qui appartenaient à la famille impériale. On n'avait évidemment pas qu'un seul palais. On nationalise également des collections privées et beaucoup de ces œuvres-là et de ces artefacts-là sont transférés à l'Ermitage.
Dites-moi, Marcel, à la suite de ces mouvements, justement, politiques, est-ce qu'il y a des œuvres qui ont été transférées, qui ont été remises à des pays où on les avait, ou en fait, à leur pays d'origine, je dirais, est-ce qu'il y a eu ce brasse camarade-là ou c'est simplement...
C'est rare qu'on voit des musées rendre ce qu'ils ont,
ouais,
par exemple. Dans le cas
rare,
de l'Ermitage, je ne peux pas dire que j'ai vu. À un moment donné, on a organisé une exposition de des œuvres qu'on avait, dont on s'était emparé pendant l'invasion de l'Allemagne après avoir été envahi. L'URSS a contre-envahi, on s'est rendu, on a pris Berlin, puis il y a eu une exposition d'œuvres qui avait été, on pourrait dire, nationalisée pendant cette campagne-là. Quoique ces œuvres-là, évidemment, l'Allemagne nazie, elle aussi, avait volé beaucoup d'œuvres d'art. Mm-hmm. Donc, souvent, c'est difficile de retracer l'origine exacte de ces tableaux-là. Ouais. Et des fois, on s'en donne pas nécessairement la peine non plus. Mais ça demeure quelque chose d'épineux dans le cas des musées qui sont régulièrement demandés, par exemple, par des pays. Pouvez-vous nous restituer tous les trésors que vous avez?
Ouais.
Et à l'Ermitage, on a une section d'artefacts égyptiens de l'Égypte antique. On a des sections d'art de Chine, de Mongolie, d'Inde, tout ça, d'Asie centrale. Il est probable que plusieurs de ces œuvres-là devraient être dans leur pays d'origine et non à Saint-Pétersbourg. C'est un problème qui est lancinant pour les musées. Ça risque de continuer, ça risque d'aller en empire avec les années. D'ailleurs, le nombre de demandes de restitution, c'est toujours un processus compliqué à chaque fois. Mais donc, tout ça pour vous dire, je vois que le temps file, mais qu'est-ce qu'on retrouve en plus de ce que je viens de vous nommer à l'Ermitage? Bien, on retrouve de tout parmi l'immense collection de plus de 3 millions d'objets. Ils ne sont pas tous exposés, évidemment, mais c'est un des plus importants inventaires de tous les musées du monde. Si vous vous intéressez à la peinture et que vous avez un grand maître en particulier que vous aimez, c'est presque certain qu'il y a une peinture de lui, de Léonard de Vinci jusqu'à Picasso. On a vraiment de tout. Et il n'y a pas beaucoup de gens en Occident en ce moment qui se planifient un voyage en Russie qui pourrait vous faire passer par Saint-Pétersbourg. Mais si vous êtes curieux et curieuse, on peut faire une visite virtuelle artistique du musée qui a été réalisé il y a quelques années. Ça dure plus de 5 heures. Ça se trouve sur YouTube. Avec ça, Francine, je pense que vous aurez l'impression de vous être vous-même rendu sur place.
Oui, sans subir de conséquences autres, je dirais.
Voilà.
Oui, voilà. Bien, merci de nous avoir fait voyager aujourd'hui. Ça fait du bien. Oui. Puis les musées, ben, c'est sûr que comme on parlait tantôt des événements réconfortants, ça fait partie d'activités, je dirais, réconfortantes. Alors, ben, Marcel, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.